marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Vous n'ignorez pas, monsieur, combien votre famille a pu être brocardée. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
François de Vindel, 1874-1949, l'argent et le pouvoir.
Parfois, c'est difficile de... d'assumer ce qu'on est, d'assumer notre histoire et avec tout ce qu'elle a aussi de fastueux, de richesse, de pouvoir. Oui, c'est ça, on fait partie de la haute société et c'est pas toujours facile à assumer non plus. Il faut assumer aussi les richesses qu'on a.
Une des mille et quelques actionnaires familiaux de la famille de Vindel au moment du tricentenaire de la maison, Osmonde de la Rochefoucauld. La famille, on disait la maison. La spécialité, la sidérurgie. Le domaine, la guerre de 1870 l'avait divisé en deux. La frontière se tenait à la grille de l'usine Lorraine de Jeuves. Si les Vindel avaient un objectif politique, c'était bien de voir le drapeau tricolore flotter sur les usines et les localités qu'ils contrôlaient. Et aussi de s'assurer des sources d'énergie accessibles dans le bassin rhénan et westphalien. L'Allemagne était leur souci premier. En 1914, le chef de la maison, François, déjà membre du conseil de régence de la Banque de France, Frubon se fait réélire député. Il resta parlementaire jusqu'à la défaite de 1940. L'entre-deux-guerres le vit aussi président du comité des forges, un syndicat patronal qui avait la réputation de distribuer beaucoup d'argent à des journaux d'influence, aux partis de la droite, puis aux ligues de l'extrême droite. François de Vindel avait construit un système gigogne. La presse disait « c'est un type du genre de Dieu ». Du grand lama, il plane au-dessus des hommes. Mais peut-être eût-il mieux fait de ne pas vouloir être aussi un homme politique. C'est du moins ce que pensa toujours une partie de la famille. Demeurer peu visible donne des atouts. La puissance trop exposée, au contraire, isole et alimente un flot de soupçons et d'accusations. Combien de malédictions François de Vindel n'a-t-il entendu ? Il affirmait toujours qu'il ne mettait pas à la même hauteur les intérêts de la France et ceux de la nation. Sa biographie est donc un cas d'école qui aide à mesurer le degré d'autonomie que le politique peut garder par rapport aux forces de l'argent.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Noël Jeannet, bonjour.
Bonjour.
Au moment du tricentenaire de la maison, deuxième édition de votre thèse que vous aviez soutenue en 75, qui était parue en 76, François de Vindel en République, et maintenant une troisième édition, Biblis CNRS. Vous voilà revenu aux sources de votre jeunesse. Quel bonheur de trouver un fonds d'archives extraordinaire et d'y avoir accès grâce aux libéralités d'une partie de la famille.
Oui, oui, ça a été un bonheur absolu. Imaginez que ce personnage qui n'était pas connu, ou sinon par des biographies complaisantes, avait laissé derrière lui un journal tenu quotidiennement avec une précision d'ingénieur pendant plusieurs décennies, 10 000 pages. Quand j'ai trouvé cela, grâce à l'ouverture d'esprit de sa fille, Madame Dimitri, je lui rends hommage, je me suis dit que c'était un ensemble, enfin c'était une mine d'or pour qui s'intéressait en histoire politique à de nouveaux champs qui étaient l'influence des forces extérieures sur la décision des acteurs. Il y avait les médias, ça m'a occupé quelque temps, et puis il y avait l'argent, réalité et mythologie. C'était magnifique.
Madame Dimitri a peut-être été sensible au fait que la famille Jeannet, c'est l'aristocratie républicaine. Petit-fils de ministre, fils de ministre, vous-même appelé à devenir ministre. Et l'aristocratie financière a eu confiance en l'aristocratie républicaine, non?
Il se peut. En même temps, elle savait que je n'étais pas, du même bord, effectivement, politiquement. Elle a pris le risque de m'ouvrir ses archives. Je crois qu'après coup, elle en a été contente. Je la vois encore parmi tous les autres à l'université de Nanterre. C'était un choc de culture. Pendant ma soutenance de thèse, elle était plutôt contente, même si dans sa famille, certains ont pensé au contraire que ça avait été bien imprudent.
Alors, la famille possède plusieurs châteaux, le château Maurice, le château Imbert, et tout ça en Lorraine, à la frontière entre 70 et 14 des deux pays, France et Allemagne.
Au centre de l'Empire Vindel, à Yange, avec, au milieu des hauts fourneaux et des maisons ouvrières, les grands bureaux et le château, poste de commandement de la famille.
Ce château est édifié entre 1894 et 1896, et c'est là que viendra habiter François de Vindel lorsqu'il arrive à Jaffe vers 1900. Il prendra la responsabilité dans la société à partir de 1903, où il devient gérant après la mort de son oncle Robert. On peut dire qu'entre les trois frères, qui ont beaucoup d'étroites relations, il y a un peu un partage des tâches. François est le chef de la famille, il est le représentant. Humbert est plutôt le gestionnaire, le financier. Et Maurice, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, se consacrera beaucoup aux œuvres sociales, notamment avec son épouse qui sera la seule femme de Vindel en permanence à Jaffe.
Alors nous allions en Lorraine pendant les vacances. Comme on le sait, la famille Vindel vivait au milieu des usines et donc on entendait vrombir la nuit les convertisseurs d'acier, les hauts fourneaux. On voyait des traces fulgurantes de lumière et de feu dans la nuit. Et c'était vraiment en effet un ensemble qui était extrêmement prenant et qui certainement m'a donné, je dirais, le sens et le goût de l'industrie, ça c'est certain.
Ernest Antoine Sellière, qui plus tard sera le chef de la maison et qui reconvertira la maison en société d'investissement financier assez loin de la sidérurgie.
Et du MEDEF aussi, dans la continuité de celui qui avait été le président du comité des forges d'une certaine façon, mais dans un climat politique complètement différent.
Il n'a pas eu l'imprudence de se faire élire député, Ernest Antoine Sellière. Y serait-il parvenu d'ailleurs? Humbert, le frère de François. Quand François commence à se présenter aux élections, 1906, quand il est élu en 14, un peu avant la guerre, trouve ça imprudent.
Oui, oui, il considère que c'est se mettre en avant et que la vieille devise « pour vivre heureux, vivons cachés » n'est pas si mauvaise. Les Muliez dans le Nord disaient « le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien ». En effet, encore que leur ancêtre avait été lui-même parlementaire éminent sous le Second Empire, mais c'était un autre régime. Oui, Humbert pense que ce n'est pas la peine de provoquer des hostilités et de renforcer des mythes dont de toute façon il considère que sa maison souffre.
Alors essayer de fédérer les centaines de députés, c'est une chose impossible. C'est déjà pas si facile de fédérer la famille et les nombreux actionnaires qui attendent des dividendes de l'activité sidérurgique. Chacun des frères a sa spécialité. Voici un descendant au moment du tricentenaire, Saint Thomas d'Aquin. Une église.
Saint Thomas d'Aquin n'est pas de... Ah, je comprends. Je
c'est pas en Lorraine.
C'est une église à Paris. C'est pas un descendant, vous m'étonniez.
Non, Saint Thomas d'Aquin n'est pas un descendant, il était angélique. Un descendant, le Pierre Piéplu, à l'église Saint Thomas d'Aquin, devant Osmond de la Rochefoucauld, puis les centaines d'autres actionnaires familiaux.
La considération pour le personnel, le souci de la santé, de la culture, des conditions concrètes de l'existence, de la justice dans les salaires, selon le rang et la fonction de chacun. D'où construction de maisons confortables, entourées d'espaces verts pour la détente et le confort de la famille. Fondation d'écoles, de dispensaires, d'églises au style très particulier. Distribution des retraites selon un quota personnel. Il y a là, vous le sentez, l'exercice d'un paternalisme de bon aloi, respectueux à la fois de la liberté et de la personnalité de chacun, très en avance sur les lois sociales qui ne viendront que 30 ans après.
Reportage 2004 de Mathieu Garrigou-Lagrange à France Culture. C'était le programme électoral de François de Vindel en 14, ça, la doctrine sociale de l'Église?
C'était sa pratique, en fait. C'était la pratique de la maison. Vous rappeliez cette expression, la maison. C'était effectivement le paternalisme, toute une époque qui est magnifiquement décrite avec un léger décalage temporel par Monsieur Piéplu, puisqu'il s'appelle Piéplu. Je ne sais pas si c'est un rapport avec Claude Piéplu. Vous n'avez pas déniché cela?
Non, nous n'avons pas cherché, vous pensez, capable de faire le rapprochement et tout à fait compétent dans l'arbre généalogique de la maison.
De fait, c'est un univers décrit comme tel, où chacun est à sa place. Et chacun tire avantage de cette hiérarchie organisée. Au même moment, du côté des Schneidre, au Creusot, lorsque une ouvrière se mariait, au bout de 6 mois, On lui demandait de quitter son poste de toute façon parce qu'il était logique qu'elle attendît un enfant.
Doctrine sociale de l'Église, c'est l'époque du ralliement. Il était républicain, François de Vindel ?
Il était républicain par choix, pas par passion, mais par choix et par détermination, c'est vrai. Et méfiant à l'égard de l'Église, il n'était pas... En fait, une marque qui n'était pas vraiment croyant. Il pensait que l'Église avait un rôle de consolidation de la société et que quand elle l'assurait, c'était bien. Mais dès lors qu'est apparu un catholicisme un peu différent dans l'entre-deux-guerres, il devient extrêmement sévère à l'égard des évêques qui représentent une évolution qu'il considère propre à renforcer, en particulier le syndicalisme. Vous savez qu'il disait, les saints, il disait, il y a des saints partout dans la région, nous avons donné des noms de saints, sauf, il y en aura un qu'on ne verra jamais, c'est syndicat.
Dites-moi, Jean-Noël Jeannet, restons à la guerre de 14, à ses débuts politiques, à l'Assemblée, bon, il n'a pas un rôle central en cette époque d'union nationale. Il ne veut pas mettre à la même hauteur les intérêts de la maison et les intérêts de la nation. Les intérêts de la maison, c'est pas facile de les protéger parce que toute la maison maintenant est du côté allemand qui a progressé en Lorraine. Il aurait fallu peut-être bombarder les installations des Vindel, c'est ce que longtemps les veuves, les pères, les femmes des anciens combattants ont dit.
Ça a été en effet une querelle extrêmement violente et qui a beaucoup contribué au mythe si intéressant à étudier, qui a entouré les Vindel et plus largement les 200 familles. Il serait en effet intervenu très directement et continuellement pour empêcher qu'on bombardât les biens Vindel et du même coup, il aurait permis aux Allemands de fabriquer beaucoup plus de canons et d'obus et un romancier communiste, Wurmser, imagine après 1945 qu'un ancien combattant vient assassiner François de Vindel pour incarner métaphoriquement cette hostilité. Il me faudrait plus de temps pour regarder de près cette querelle. C'est assez compliqué. Je me suis efforcé de l'étudier comme quasiment un juge d'instruction. Je dirais deux ou trois choses simples. D'une part, c'est vrai qu'il est intervenu en 1916 pour dire « si vous bombardez des usines, tâchez de ne pas bombarder plutôt la mienne ». Mais il a évolué ensuite, et au contraire, il a donné des plans pour ces bombardements. Mais surtout, les bombardements étaient assez inefficaces, notamment du côté des mines. Ils n'ont pas vraiment compté. Et l'idée que on aurait provoqué, permis la construction de canons et en quelque sorte causé par là la mort de quantité de poilus, ça, c'est évidemment une calembre d'aine. Il reste que ce qui est le plus intéressant, c'est le mythe.
Oui, parce que vous avez beau avoir travaillé en juge d'instruction précis, à charge et à décharge, il reste notamment dans les médias des procureurs. Joseph Pasteur est le fils de François de Vindel, Henri.
Vous n'ignorez pas, monsieur, combien votre famille a pu être brocardée. Les deux Vindel sont des marchands de canons. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Ma réponse est extrêmement simple. À aucun moment, il n'a été fait un canon dans nos usines. Et pour une raison non moins simple, c'est que l'acier lorrain tel qu'il était produit à cette époque et tel qu'il était produit dans le passé était impropre à la fabrication des canons. Donc ceci règle, me paraît-il, la question.
Est-ce que vous me permettez, monsieur, une observation sur ce point? Vous avez quand même fabriqué de l'acier. Et cet acier pouvait être affecté, il l'était, à l'industrie de l'armement. Donc indirectement, vous participiez à l'activité des marchands de canons.
C'est une conception assez extensive de la notion de marchand de canon. Il est exact que nous avons pu vendre aux arsenaux ou à l'armée des aciers qui ont pu servir, qui leur servaient pour leur matériel. Mais de très nombreuses industries qui n'étaient pas spécialement sidérurgiques avaient également parmi leur clientèle le ministère de la guerre. Donc je ne crois pas que ça puisse faire mériter une mention très particulière.
Dites-moi, après la guerre, de Vindel est très content de la reconstitution de son empire et il veille de très près à son alimentation par les bases énergétiques du bassin rhénan-westphalien. Ou bien est-ce que sa politique est commandée, notamment quand il était à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, par une vigilance nationaliste, anti-allemande très forte?
Il a une vigilance anti-allemande très forte, incontestablement. Oui, il est dominé dans sa pensée politique par l'idée que l'Allemagne est un chien enragé, en quelque sorte ontologiquement, et qu'il faut par conséquent le tenir en laisse. C'est pour ça qu'il déteste la politique de Briand. Vous savez qu'il veut se rapprocher de l'Allemagne et conforter une démocratie allemande en difficile gestation.
Mais ce qui est intéressant dans votre livre, dont je rappelle qu'il est réédité chez Biblis CNRS, c'est la distinction fine que vous faites entre deux camps dans le patronat. Parce qu'il y avait des partisans de Briand dans le patronat. Il y avait des partisans de l'alliance avec les États-Unis. Et les États-Unis faisaient pression pour que la France ne réclame pas trop ses demandes de réparation vis-à-vis de l'Allemagne.
C'est là qu'on rencontre l'opposition entre le mythe de l'unité, vous savez, avec des patrons dans l'ombre qui, avec un cœur sec et une efficacité épouvantable pour la République, tire les ficelles des malheureux pantins devant la Seine. Et puis une autre réalité qui est que le comité des forges, que l'ensemble des forces patronales, des forces du gros argent, comme on disait à l'époque, sont profondément divisées à l'intérieur d'elles-mêmes. À l'intérieur du comité des forges, ceux qui fabriquent de l'acier n'ont pas les mêmes intérêts que ceux qui l'achètent pour faire des tuyaux, par exemple. Donc, dans le quotidien des jours, il y a beaucoup d'hostilité interne qui contribue à affaiblir l'influence. Évidemment, lorsque ce monde a l'impression d'un danger qui les frapperait tous, alors l'unité se reforme. C'est le cas en 1924 avec le cartel des gauches et c'est le cas aussi en 1936 au moment du Front Populaire.
Alors, 1924, cartel des gauches.
Vous me le reprochez.
Non, 1924, cartel des gauches. Un des tout premiers livres de Jean-Noël Jeannet, Leçon d'histoire pour une gauche au pouvoir, le cartel des gauches serait tombé face au mur de l'argent dressé par les puissances financières coalisées et qui ont un rôle déterminant dans la régence, la gouvernance de la Banque de France. Et François de Vindel, il est régent de la Banque de France. Il fait tomber le gouvernement du radical Herriot qui a été constitué après les élections de 1924.
Oui, il le fait tomber en complicité avec un autre régent, son ami Rothschild, Édouard de Rothschild. Mais il ne suffit pas de dire cela. Il y a eu un mur d'argent, mais j'essaye de démontrer que la responsabilité du gouvernement de gauche est grande.
Il y a eu des faux bilans
de la Banque de France. Pour résumer les choses, je n'entre pas dans les détails, on peut dire que Herriot s'est mis autour du cou un lacet. En tendant le bout du lacet à ces régents de la Banque de France, ils n'ont eu qu'à tirer. Alors c'est très choquant de penser en démocratie que ces puissances telles que celles de Vindel ou de Rothschild ont pu provoquer ou hâter la chute d'un gouvernement. Mais ma démonstration est que, en voulant s'obstiner à revaloriser le franc, ce qui n'était pas raisonnable, et comme ils ne pouvaient pas le faire, à dissimuler le fait que, secrètement, on avait des concessions scandaleuses aux réalités économiques concrètes, en se posant de la sorte, Édouard Herriot et les siens se sont mis dans une position de faiblesse telle qu'ils ont donné la chance à la droite conservatrice, incarnée principalement par François de Vindel, et c'est son triomphe, c'est le moment majeur de son influence comme parlementaire, on lui a donné l'occasion de le mettre à bas. Et là, il y a eu un mur de l'argent, mais vous voyez que les choses sont plus complexes qu'on ne le dit parfois.
Cependant, vous dites que c'est fin comme phrase.
Je vous remercie d'avance.
La crainte de François de Vindel de paraître agir pour des motifs financiers a cédé pendant cette période au milieu des années 20 où il est au zénith à la volonté de le faire délibérément.
Oui, il est constamment pris entre le désir de ne pas afficher sa puissance, de peur qu'on l'attaque et que ses frères lui disent « Tu vois bien que tu as eu tort de devenir parlementaire », et néanmoins, dans certains cas, utiliser les moyens qui sont les siens, et, c'était un homme, laisser entendre que sa puissance n'avait pas été inutile aux yeux des fins qu'il souhaitait poursuivre.
Dernière étape, celle des années 30, après la crise de 29, la fortune des Vindel leur permettra plus difficilement d'avoir des sommes à distribuer ici et là. Et puis François de Vindel sera peut-être désespéré par le rythme des mutations ministérielles.
Monsieur Morisset, que pensez-vous du nouveau ministère?
Toujours les mêmes, quoi. Ainsi font nos ministres marionnettes, ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Quand ces braves gens sont initiés à leurs affaires, à leurs dossiers, le ministère est renversé et tout est à recommencer. les malheureux sont obligés, chaque mois, de déménager. Tout le monde s'y perd, et l'autre soir, un diplomate a voulu voir le ministre des Affaires étrangères. Ne croyez pas que j'exagère. Le concierge du Quai d'Orsay lui répondit, je vais voir qui c'est. Attendez donc un petit instant, je vais me renseigner, ça change tout le temps. Ainsi front, 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 nos ministres marionnettes. Ainsi front, 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 trois petits tours et reviendront.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Noël Jeannet, François de Vindel, L'argent et le pouvoir, nouvelle édition, Biblis, CNRS. Il s'intéresse de plus en plus aux journaux, il s'est toujours beaucoup intéressé aux journaux. Les Vindel ont une participation faible au départ au journal des débats que François de Vindel jeune fait servir aux instituteurs de son canton. Et il va y prendre le pouvoir d'une manière compliquée, mais c'est juste un journal d'influence.
C'est le journal de la bourgeoisie, un des deux journaux de la bourgeoisie avec le journal Le Temps. Effectivement, il possède une grande partie de ce journal avec le sucrier Le Baudy. À l'époque se pose déjà la question de la propriété des organes de presse et la question de leur influence. Autrement dit, il considère avec un peu de... Enfin, en se trompant un peu lui-même, comme ça arrive si souvent, que posséder un journal, ça consiste à pouvoir peser sur son contenu et que peser sur son contenu, ça pèsera sur l'opinion publique.
Mais Le Temps, quand même, alors, à la différence de débat, oui, a un pouvoir.
Je signale que le directeur des journaux des débats, Nalèche, a écrit chaque jour des lettres à son ami Le Baudy, qui viennent d'être publiées par les bons soins de Odile.
Enfin, moi, j'attends les lettres de Nalèche à ses maîtresses. Parce que je pense que c'était intéressant aussi, mais peu importe.
Vous vous égarez, Jean Lebrun.
Non, vous dites que c'est Odile un homme de plaisir.
Odile Gauthier-Voiturier, Biblis. François Danel n'est pas un homme de plaisir, mais...
Non, mais Nalèche.
Pas. Nalèche, bien entendu, mais nous égarons pas. Nous évoquions le rôle des journaux, et réalité et mythologie. Alors c'est vrai qu'en Le Temps... est en déshérence, les propriétaires disparaissant, l'ensemble des milieux patronaux, pas seulement le comité des forges, s'arrange pour qu'ils soient rachetés et que, par conséquent, ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers. Ça n'empêche pas que ce journal va être divisé à l'intérieur de lui-même, avant 1939, sur la question de Munich, etc. Donc on se trompe toujours en voyant les choses d'une façon linéaire, du côté de la presse et de son influence. Il n'empêche que c'est un problème lorsque les grands organes de presse sont dans la main des grands intérêts.
Une question qui ne se pose plus aujourd'hui. Vous avez dit comité des forges ?
Vous n'ignorez pas, monsieur, combien votre famille a pu être brocardée, particulièrement pendant l'entre-deux-guerres, ce qui fait que, pour beaucoup de Français de notre génération, les deux Vindel, ils appartiennent aux 200 familles, et ce qui est plus grave encore, au comité des forges. Vous rappellerez que le comité des forges était pour beaucoup... un organisme qui manipulait des fonds considérables, et ces fonds étant destinés, pour l'essentiel, à acheter des hommes politiques et à acheter des journaux, de façon à peser sur la politique du moment. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
En réalité, à ce nom près, quelle différence essentielle y a-t-il entre le comité des forges et une chambre syndicale patronale, telle qu'il en existe à notre époque un grand nombre? Alors, il reste le côté caractère occulte. Franchement, relevez un peu l'imagerie épinale. Quant au côté de ces fonds qui servaient à acheter des ministres ou des fonctionnaires, je ne peux faire qu'une réponse, c'est que, et rappeler que mon père a été président du comité des forges entre les deux guerres, et j'ai beaucoup trop connu et le patriotisme et le souci d'intérêt général et la parfaite intégrité de mon père, vous pensez qu'il ait pu, à un moment quelconque, se prêter à des manœuvres de cette nature.
C'est un bon fils.
C'est Henri, le fils donc de François. Vous diriez que ce n'est pas tout à fait exact, la dernière assertion?
Il est évident que le patronat donnait beaucoup d'argent à un certain nombre de partis politiques pour assurer le fonctionnement, les élections, etc. Ça a duré jusqu'aux lois très saines des années 1990, avec financement public désormais des élections. C'est vrai que les hommes politiques allaient faire la queue, encore sous la 4e République, devant les officines d'un certain nombre de gens qui étaient chargés de distribuer l'argent du patronat.
Ce qui J'aime veut pas bien dire, votre optimisme, Jean-Noël Jeannet. Vous dire... croyez vraiment à l'autonomie du politique et à l'efficacité des lois.
Je crois surtout que c'était pas parce qu'on leur donnait de l'argent qu'ils devenaient des pantins. Je pense que ça pouvait, dans certains cas, effectivement, influencer les décisions, mais que les choses étaient plus compliquées. Je pense aussi qu'en démocratie, voyez la différence avec les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, il est essentiel que ce soit de l'argent public qui permette que les élections se déroulent, qu'on surveille, mais qu'on n'imagine pas, encore une fois, par un esprit d'hostilité anti-parlementariste, que les hommes politiques sont des pantins. Cela, je trouve ça assez insupportable. Ça peut arriver, naturellement, il y a des vendus, mais pas plus.
Ce 6 février, émeute à Paris, anti-parlementaire, jusqu'au bord du Palais Bourbon, on se pose bien sûr la question d'un type de financement particulier, c'est celui du financement du comité des forges pour les croix de feu, par exemple.
Les croix de feu se sont dressées pour chasser toutes les souffrances, pour que la leur renaisse en France et que le vainqueur respecté de nouveau chante sa fierté aux oiseaux bleus de l'espérance.
Alors, financement des Croix de Feu, financement de Doriot, le Parti Populaire Français, un transfuge du Parti Communiste.
Un certain nombre d'organismes patronaux ont sûrement financé certaines ligues un certain temps. Mais François de Vindel, dès qu'il a pu penser que certaines de ces ligues étaient soumises secrètement à une influence allemande et même italienne, il a veillé à ce qu'elles ne soient pas payées davantage. Il pensait que les ligues, ça pouvait être utile éventuellement contre un coup de force communiste, limite n'était pas d'un seul côté, mais sûrement pas pour le remplacement des partis politiques. Il était très attaché au sien, la Fédération républicaine.
Hésitation quand même dans les dernières années de l'avant-guerre. Qu'est-ce qui est le pire ? Hitler, Staline, Mussolini, est-ce que c'est pas bien ?
Lui n'a aucun doute. Hitler, c'est affreux. Mussolini, pendant un certain temps, il est tenté en effet par un soutien à Mussolini, comme beaucoup d'autres. Mais il est par exemple partisan assez solitaire dans son camp pour du traité franco-soviétique contre Hitler. L'obsession de l'Allemagne et du péril qu'elle représente a dominé, il faut le dire, l'ensemble de ses attitudes, d'autre part, non sans, évidemment, contradiction interne et intime à certains moments.
1940, il n'ira pas à Vichy, il n'aura pas à voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il ne sera ni pétiniste, ni non plus d'ailleurs gaulliste.
Il se tiendra très bien pendant la guerre. D'ailleurs, quelqu'un de la famille Ségolène de Vindel sera une résistante reconnue.
Et il mourra en 1949, léguant 10 000 pages dactylographiées que vous avez lues et étudiées pour votre thèse, Jean-Noël Jeannet, François de Vindel, L'argent et le pouvoir, Biblis, CNRS. L'émission était préparée par Nolwenn Bocri avec Frédéric Martin, Franck Olivard et Ninka Negulesco, Charles Pélabon à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation et dans un instant une rediffusion de La Tête au Carré, l'invention de la guerre avec Anne Lauerf.